France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, triste tropique, l'aventure humaine. Chapitre 1, être né quelque part. Quand nous sommes enfants, le monde qui nous entoure est évident pour nous. On ne se demande pas pourquoi nous apprenons à marcher sur les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, comme le chantait Le Forestier, ou sur la terre d'Amazonie. Plus tard, à l'adolescence, nous commençons à nous poser la question. Pourquoi sommes-nous nés quelque part et pas ailleurs? Et quelle aurait été notre vie si la roue du hasard en avait décidé autrement? Il serait bien sûr plus intéressant cet ailleurs, plus juste. Il serait débarrassé de toutes les horreurs de notre civilisation. Il serait une source intarissable de joie. Nous commençons alors à croire que cet endroit lointain existe et à comparer nos vies à ce rêve. Autrement dit, nous commençons à comparer ce que nous connaissons avec ce que nous imaginons. Et c'est là que les difficultés commencent. On ne peut pas comparer deux choses si on n'en connaît qu'une seule. Seulement voilà, nous les humains, nous ne nous embarrassons pas de ces détails. Nous comparons ce que nous connaissons avec ce que nous ne connaissons pas, simplement sur la base d'apparences et d'idées reçues. Nous nous comparons aux autres, mais en utilisant nos propres critères. Des critères qui n'ont de sens que pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre pays, pour notre civilisation. Et pourtant, aussi choquant que cela puisse paraître, les autres ne pensent pas comme nous. Ils voient le monde différemment. On ne peut donc pas avoir une opinion sur eux sans comprendre d'abord comment eux voient le monde. C'était l'un des messages de Claude Lévi-Strauss. Au fur et à mesure de l'évolution de cette science, l'ethnographie a cherché à comprendre de plus en plus précisément comment les autres pensaient. Derrière cette démarche, il y a une question qui obsède l'humanité. Qu'est-ce que l'humain et que fait-il sur Terre? Bon sang, oui, une bonne question.
Je n'ai jamais été formé à la profession d'ethnologue. Je suis un ethnologue de raccro, un ethnologue improvisé.
Parmi tous les humains obsédés par cette question, l'un s'appelle donc Claude Lévi-Strauss. Il a tenté de déjouer l'inquiétude que cette interrogation provoque en cherchant des réponses dans différentes matières, l'art, la philosophie et surtout l'ethnologie. Mais y est-il finalement parvenu? Qu'a-t-il apporté à la connaissance de l'être humain? Et quel sens a-t-il trouvé dans ses recherches ethnologiques qui lui ont servi dans sa vie d'être humain? Voilà les questions que nous allons garder en tête. Dans la première partie de sa vie, Lévi-Strauss a également cherché à déjouer cette autre énigme que se posent les humains, la loterie de leur naissance. Par exemple, pourquoi avait-il grandi à Paris plutôt qu'ailleurs? Et qu'est-ce que cela impliquait pour lui? Lévi-Strauss avait vu le jour dans la société occidentale et moderne, et il s'était rapidement rendu compte que ce monde ne lui convenait pas. C'était dans la nature qu'il se sentait le mieux, plutôt que dans la capitale. Il aurait aussi aimé naître avant l'époque de la modernité, ou tout du moins dans les premiers temps de cette modernité quand elle était moins invasive. Comme beaucoup d'entre nous, il se demandait s'il n'y avait pas un ailleurs. Il avait envie d'aller voir au-delà de l'Hexagone, plus loin que l'Europe, et de faire entrer de l'air frais dans sa vie. C'est l'une des raisons qui l'avait conduite à dire oui quand on lui avait proposé de partir au Brésil, un pays qu'il ne connaissait pas, afin d'y enseigner la sociologie, une matière qu'il ne connaissait pas. C'était en 1935. Cet ethnologue curieux de tout aurait pu faire mille autres choses, notamment de la politique, un domaine qui l'attirait comme la plupart des domaines de la pensée.
Toutes ces années d'adolescence ont été des années d'extrême dilettantisme, si je puis dire. Tout m'intéressait, trop de choses m'intéressaient. Je faisais de la philosophie qui m'intéressait, bien entendu. Enfin, il y a probablement très peu de domaines de l'activité intellectuelle qui ne m'aient attiré, qui ne m'aient séduit et vers lequel, à un moment ou l'autre, j'ai pensé que je m'orienterais.
Lévi-Strauss va rester 4 années au Brésil. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale va modifier le cours de sa vie. Et c'est seulement 15 ans après être rentré de ses explorations dans la forêt amazonienne qu'il va rédiger en 4 mois un livre essentiel, Triste Tropique. Un livre qui allait connaître un très grand succès et bouleverser la manière d'écrire sur l'ethnologie. Un livre qui pose les bases d'une pensée qui est au cœur des problèmes d'aujourd'hui. Un livre avec lequel il a entretenu des relations d'amour et de haine. Et c'est l'histoire de ce livre que nous allons vous raconter.
Triste Tropique, l'aventure humaine. Une série en 6 chapitres de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Xavier Joly. Attachée de production, Anne-Vanessa Prévost.
J'étais professeur de philosophie, j'ai beaucoup aimé ça au début, et puis j'ai eu très rapidement, dès la deuxième année, le sentiment que je ne pouvais pas penser, recommencer un cours année après année, même si j'y changeais quelque chose. Et puis j'avais très envie de voir le monde, et il se trouve qu'à cette époque-là, l'ethnologie était en train de se constituer dans l'enseignement français comme une discipline indépendante. Mais c'est en 1930, si je ne me trompe, que Paul Rivet a été élu professeur au Muséum et a entrepris de réorganiser de fond en comble le vieux musée d'ethnographie du Trocadéro, qui allait devenir, en 1937, alors, le musée de l'homme. Et donc l'ethnologie, si j'ose dire, recrutée. Et elle était très accueillante pour les jeunes agrégés de philosophie. C'était donc un moyen de concilier ce besoin de grand air, enfin, que je ressentais, et d'autre part, de me fixer sur une discipline peut-être plus concrète que la réflexion philosophique. Et c'est de cette façon-là qu'en 1935, je me suis embarqué pour le Brésil.
Emmanuelle Loyer, vous êtes historienne, professeure à Sciences Po et autrice d'une biographie de Claude Lévi-Strauss publiée aux éditions Flammarion. Au moment où il part pour le Brésil, dans quel état d'esprit diriez-vous que se trouve Claude Lévi-Strauss ?
Je dirais qu'il est évidemment curieux de ce qu'il va trouver, à la fois pas si mal intégré à la société de son temps. C'est, comme il le dit, un jeune agrégé de philosophie, marié déjà. Jeune, hein, il a 28 ans. Et en même temps, il a toujours décrit ce saut dans le vide, d'une certaine manière, cette rupture, hein, une des grandes ruptures de sa vie, c'est-à-dire le choix de l'ethnologie comme une voie de salut. C'est quand même une expression qui dit ce qu'elle dit.
Alors, de salut de quoi ?
Alors, justement, il était manifestement insatisfait non seulement de l'enseignement, enfin de sa fonction de professeur, hein, comme ils étaient, comme Sartre, comme Beauvoir, c'est la même, il est contemporain. Hein, c'est un agrégé de philosophie qui fait sa première année dans les Landes, hein, à Mont-de-Marsan, qui aime beaucoup, comme il l'a dit dans l'archive, faire court, mais qui ne se voit pas répéter le programme chaque année. Donc, je dirais que ce moment qu'il a mis en scène dans Triste Tropique comme un grand moment de rupture, fracassant, c'est vrai que c'est quand même une bifurcation, finalement, qui comporte sa part de mystère, parce que, encore une fois, c'était pas du tout quelqu'un qui était à la dérive ou qui était... bien sûr qu'il était critique vis-à-vis de sa propre société, parce que c'était un militant socialiste. Donc dans sa pratique politique, plus que sa théorie, hein, c'était un militant de base d'une certaine manière, ça a été un des seuls, hein, de toute cette génération à vraiment faire de la politique. Alors, par ailleurs, biographiquement, ce qu'on m'a raconté, ce que sa femme Monique notamment, c'est que c'était, enfin, psychologiquement, si vous voulez, c'était quelqu'un en effet très accessible à l'ennui. Il s'ennuyait très très vite.
Oui, d'ailleurs, et il le montrait. Il dit, c'est comme si les sujets se dissolvaient devant moi du seul fait que je les avais déjà appliqués à ma réflexion. Triste Tropique est un livre total, nous aurons l'occasion d'y revenir souvent tout au long de cette série. Je pense qu'on comprend mieux ce qu'est ce livre si on a en tête le milieu très particulier dans lequel est né Claude Lévi-Strauss. C'est un milieu à la fois très bourgeois, mais aussi très fauché. Très bourgeois, puisque son grand-père était le compositeur Isaac Strauss, l'une des stars du Second Empire. Cet homme débonnaire était en effet le directeur des bals de l'opéra. et il avait ses entrées partout, en particulier auprès de l'empereur lui-même, Napoléon III. Grâce à un sens aigu des affaires, il avait accumulé de quoi vivre très confortablement. Mais quand Claude Lévi-Strauss naît, en 1908, son aïeul est décédé depuis déjà 20 ans et l'argent a disparu. L'art, en revanche, n'a pas déserté la maison, puisque son père et deux de ses oncles sont peintres. Quant à sa mère, elle enseigne le piano.
Les fins de mois ont toujours été très difficiles à la maison et la peinture ne pouvait certainement pas suffire à faire cuire la marmite, de sorte qu'on faisait à la maison toutes sortes de petits métiers auxquels je participais. On imprimait des tissus, des velours, avec des modèles gravés dans du linoléum. Moi-même, il m'était arrivé de concevoir des motifs et de les graver moi-même. Et puis on saupoudrait tout ça avec des paillettes de métal diversement colorées. Ça faisait des choses très riches. On fabriquait des lanternes dans le goût japonais, des petites tables à moitié laquées dans le goût chinois. Mon père était un très grand bricoleur et c'est lui qui m'a donné le goût et la technique du bricolage. La seule époque où il y a eu un peu de faste à la maison, c'était au moment de l'exposition coloniale, vers 1930-31, je ne me rappelle pas, où mon père avait reçu une très grosse commande pour le pavillon de Madagascar. Et alors, à ce moment-là, un peu d'argent est entré à la maison et mes parents ont acheté pour 5000 francs de l'époque, je crois, une petite magnanerie dans les Cévennes, qui était à demi en ruine, et dans laquelle nous n'avons jamais fait que camper, mais qui a joué un très grand rôle dans mon existence, parce que j'étais adolescent. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la révélation de ce que pouvait être un pays encore très largement sauvage.
Emmanuel Loyer, on entend aussi dans cette archive l'attrait de Claude Lévi-Strauss pour la nature, et en particulier dans les Cévennes. Il raconte qu'adolescent, il monte des expéditions avec ses amis. Il adore dormir à la Belle Étoile. Donc ça nous dit déjà quelque chose d'assez profond sur sa personnalité.
Oui, tout à fait. C'est un garçon des villes, grandi à Paris, mais en même temps, et je ne sais pas très bien en vérité d'où lui vient ce... le goût d'organiser les excursions, les expéditions, ce qui lui sera très utile. Ensuite, on voit très bien au Brésil, quand il commence à organiser les choses, c'est très systématique. Donc, il y a tout ce côté un peu presque éclaireur, même s'il faisait pas partie des éclaireurs. Mais c'est vrai que, sans doute que les Cévennes ont joué un rôle très important dans ce goût rousseauiste de la nature, où il se... finalement, où il arrive aussi à lire et à concevoir ce que ça peut être aussi que l'approfondissement d'une connaissance, avec un goût, par exemple, fortement prononcé pour la géologie, qui lui vient de ses grandes promenades dans ces paysages.
Suivre les sillons, justement, voilà. De telle ou telle pierre.
C'est
ou de
ça,
telle...
les lignes de niveau. Alors, il ne parlait pas, comme Julien Gracq, de beauté géodésique, mais il fait un hymne à la géologie, une de ses trois sciences maîtresses, comme il dit, dans Triste Tropique. C'est-à-dire l'idée que la science s'est toujours montrée accéder à ce qui est caché, en fait. Et les apparences, c'est les paysages, c'est le relief, c'est la végétation, mais seule la science géologique permet finalement de comprendre l'ordonnancement du réel.
Donc c'est une démarche qu'il a très jeune, en réalité.
Et c'est vrai que, ce goût très prononcé de est très intellectuel et sensible à la fois. En fait, c'est ça que je voulais vous... j'ai insisté sur le côté intellectuel, mais aussi sensible. Ce sera évidemment un leitmotiv de son existence. Et là, il y a des pages très belles aussi dans Triste Tropique sur le paysage forestier, la forêt, qui est une sorte de micro-monde, si vous voulez, de le silence, la fraîcheur, qui offre désormais à l'homme vieux qu'il est devenu le plaisir qu'il avait autrefois à crapahuter dans la montagne, mais qu'il ne peut plus se permettre. C'est vrai qu'il a vraiment des pages très inspirées. On sent que c'est quelque chose d'absolument décisif.
Durant toute sa vie, Claude Lévi-Strauss a été un passionné de musique. Il en écoutait sans cesse, surtout quand il travaillait. Le moindre bruit extérieur pouvait le déranger. Il supportait mal, par exemple, d'entendre un pas dans le couloir ou une conversation téléphonique. Mais la musique, au contraire, enveloppait sa pensée et lui permettait de se concentrer. La musique était aussi pour lui une forme de pensée, un langage, une manière de comprendre le monde. Il l'a utilisée, par exemple, pour expliquer comment lire les mythes, qui sont à la base des sociétés humaines. Les mythes, disait-il, comprennent divers éléments qu'il faut avoir à l'esprit en même temps pour les saisir. Ils fonctionnent comme des accords faits de notes jouées simultanément. Cette analogie dit bien, à mon sens, comment Lévi-Strauss pensait avec les arts, comment les arts étaient pour lui une manière d'interpréter les choses.
J'aurais aimé profondément être compositeur ou même être chef d'orchestre. Et je crois que même aujourd'hui, si on me disait comme dans les contes de fées, que ma vie se trouverait abrégée de 10 ans ou que je mourrais à une date donnée, mais que en compensation je pouvais souhaiter ce que j'aimerais le plus, ce que je désirais, ben je dirais laissez-moi conduire, rendez-moi capable de conduire la plus belle représentation qu'il y ait jamais eu des maîtres chanteurs, et je veux bien mourir à la dernière mesure.
Emmanuel Loyer, 10 années de vie contre la joie de conduire une représentation parfaite des maîtres chanteurs, dit Lévi-Strauss. Là encore, qu'est-ce que ça nous dit de lui, selon vous?
C'est vrai que la musique, comme vous l'avez dit, et ça il le redit dans le dernier livre à la fin de sa vie, enfin la musique, les arts plus exactement, sont, dit-il, de façon encore un peu énigmatique, l'esthétique, finalement, c'est le grand mystère des sciences humaines. Donc, en tout cas, la musique, c'est vrai que c'est... Alors, quand il dit à quel point... Enfin, ou c'est vous qui l'avez dit, pardon. C'est quelqu'un, à la fois, qui chérissait le silence, mais en même temps, qui avait besoin d'être d'une légère ébriété. Quand il dit ça, pour la musique, l'alcoolisait un petit peu.
Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aux avant-gardes, Picasso, Stravinsky, mais c'est aussi une personnalité qui s'intéresse aux avant-gardes technologiques. Et ça, c'est plus étonnant quand on connaît un petit peu la suite de l'histoire et son rapport un peu compliqué à la modernité. C'était un technophile, en réalité.
Alors, les avant-gardes, oui, en réalité, c'est vrai que quand on étudie sa biographie, on voit qu'il est intéressé, jeune homme, par les avant-gardes de son temps. Mais ce ne sera plus vrai ensuite. C'est-à-dire qu'après 1945, dans les années 50, alors qu'en effet, d'un point de vue savant, il représente une forme de modernité savante, d'une manière finalement d'entreprendre l'anthropologie, il va créer un laboratoire, il utilise le début des proto-ordinateurs, etc. Mais à ce moment-là, sur le plan artistique, il lâche. C'est-à-dire que, et il va plutôt avoir l'image, pendant les 50 dernières années de sa vie, d'un réactionnaire, si on veut. C'est-à-dire que, déjà, il a beaucoup scandalisé en expliquant qu'il aimait pas Picasso, etc. Il est très critique vis-à-vis de l'art dit moderne, c'est-à-dire post-impressionniste. Enfin, il développe là tout un argumentaire. Et puis l'autre polarité, c'est évidemment les arts sauvages, on va dire, et notamment les arts amérindiens qu'il connaît bien.
À part la musique, Emmanuel Loyer, le jeune Lévi-Strauss s'intéresse beaucoup à tout ce qui peut exalter ses 5 sens, et notamment manger.
Ah oui. Oui, c'était un gourmet. Alors ça, on le voit à tous les moments de sa vie, et c'est vraiment pas des bêtises. Enfin, moi, j'ai vu les lettres qu'il adresse à sa mère lorsqu'il est, il faut dire, à Mont-de-Marsan, où on mange pas mal.
Et vous dites qu'il a cherché à comprendre le monde en le mangeant. Qu'est-ce que ça signifie?
Disons que c'est pour dire simplement que ce n'était pas... Parce que je voulais aussi un peu changer l'idée qu'on avait de Lévi-Strauss comme d'un intellectuel éthéré, assez grincheux et voyant tout de très haut. Son côté capitolin. Parce qu'apparemment, parfois, c'était un peu l'image qu'il avait même de son vivant. Et en fait, on comprend très bien, à la fois en le lisant, Et en creusant un peu sa biographie, les différents documents, pas seulement les livres publiés, mais je veux dire la correspondance et des choses comme ça, que c'est quelqu'un qui a les cinq sens très très développés. Donc on l'a dit, l'ouïe, mais en effet le goût est quelque chose de fondamental. Et puis au quotidien aussi, il aimait bien manger.
Dans les années 30, le fondateur du Musée de l'Homme, Musée d'Ethnologie de Paris, s'appelle Paul Rivet. Son rôle est important car il a transformé cet établissement du Trocadéro en un centre de savoir scientifique réellement dynamique. Il en a fait un lieu humaniste et antiraciste, comme il l'aurait affirmé dans cette archive de 1955, où il fait référence précisément au Musée de l'Homme.
Il est une vivante démonstration de l'erreur et de l'injustice de toute discrimination raciale et apporte la preuve évidente de la participation de tous les peuples au progrès de la civilisation. Il atteste la solidarité de l'homme de toutes les latitudes, de toutes les longitudes, quelle que soit la couleur de sa peau ou la forme de ses cheveux.
C'est donc dans le sillage de Paul Rivet que l'ethnographie française se développe, et c'est sur cette vague-là que Lévi-Strauss va pouvoir surfer, si l'on peut utiliser cette image pour un homme que l'on imagine assez mal s'engouffrer dans un rouleau sur une plage de Californie. Un dimanche d'automne 1934, à 9h du matin, Claude Lévi-Strauss reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, le directeur de l'école normale supérieure, Célestin Bouglet, lui dit en gros ceci. Vous voulez toujours faire de l'ethnographie, ça tombe bien. Allez donc voir Georges Dumas. Il a besoin de professeurs pour l'université de São Paulo. Il y a beaucoup d'Indiens dans les faubourgs, vous pourrez leur consacrer vos week-ends. Ah, au fait, Dumas doit savoir si vous êtes partant pour y aller avant midi. C'est de cette façon que Claude et sa femme Dina, elle aussi philosophe, traversent l'Atlantique sur un bateau de luxe. À São Paulo, ils sont accueillis avec d'autres professeurs par la société huppée de la ville. Les journaux brésiliens se font écho de l'arrivée de ces jeunes intellectuels français. Ils sont reçus à droite et à gauche, mais le couple Lévi-Strauss s'ennuie ferme. C'est qu'ils ne sont pas là pour être des ethnographes de salon. Ils veulent être de vrais anthropologues avec des méthodes modernes.
Jusqu'au début du 19e siècle, l'ethnologue considérait les indigènes avec la même méfiance et la même répulsion que s'il s'agissait d'animaux étranges fraîchement rapportés dans un laboratoire de zoologie. Alors l'ethnologue s'en allait chez l'administrateur ou chez le missionnaire, il s'y installait aussi confortablement que possible, il se mettait sur un rocking chair sous la véranda. Et puis, on lui apportait un indigène auquel il posait des questions et il était très empressé de retrouver des modes de vie plus ou moins occidentaux. Le grand auteur, le grand responsable de la transformation, c'est certainement Malinowski, qui était d'origine polonaise, et c'est lui qui, le premier, a eu, vers 1914, cette idée extrêmement simple qu'au lieu de regarder un village indigène de très loin, il fallait y vivre, il fallait partager l'existence des sauvages, coucher comme eux, manger comme eux, essayer de s'identifier aussi complètement que possible à leur existence et y participer de l'intérieur.
Emmanuel Loyer, avant de commenter rapidement cette archive, on peut s'arrêter sur le mot qu'emploie Lévi-Strauss de sauvage, qui contredit apparemment tout ce qu'il dit sur les peuples autochtones, à savoir qu'ils sont une civilisation à l'égal de toutes les autres. Est-ce que ce mot a changé de sens pour les ethnologues ?
Le moment où Lévi-Strauss utilise ce mot, c'est dans La pensée sauvage. C'est là le. Alors, c'est un titre donc de ce livre qui a été publié en 1962. Et bien sûr que, alors, il y a un jeu de mots là, puisque La pensée sauvage, c'est aussi le nom d'une fleur. Mais le terme de sauvage, accolé au mot pensée, est tout à fait évidemment valorisé, rehaussé. Et il utilise de façon très consciente, un mot qui fleure bon le XVIIIe siècle et je dirais qui fleure bon le rousseauisme, mais il se trouve que Lévi-Strauss était un fan de Jean-Jacques Rousseau. Et donc pour lui, voilà, le terme de sauvage, si vous voulez, c'est un terme dont les connotations sont tout à fait positives, tout en gardant un côté un peu désuet. Voilà.
Alors, Claude Lévi-Strauss et sa femme Dina...
Parce que sinon, veulent... c'était primitif, hein, donc c'était ça un peu l'alternative.
Alors, Claude Lévi-Strauss et sa femme Dina se veulent immédiatement des ethnologues modernes. Il le dit dans la lignée de Malinowski, l'un des pères de l'anthropologie moderne. Quelle est leur ambition à ce moment-là, à ces deux jeunes ethnologues qui arrivent à São Paulo au Brésil?
Bah, ils sont tous les deux, alors sous la, je dirais, la tutelle intellectuelle. Enfin, tutelle est trop fort parce qu'en réalité, ils n'ont jamais été à un cours d'ethnologie. Il a un petit peu fréquenté l'institut d'ethnographie, Dina aussi, mais enfin, c'est surtout de jeunes philosophes qui ont envie d'aventure et qui ont envie aussi de, comment dire, de concret, comme il a dit, hein, d'échapper à l'artifice de la rhétorique philosophique.
En tous les cas, il y a une volonté de dépoussiérer un peu tout ça et d'aller vraiment voir sur le terrain.
Oui, mais enfin, les autres aussi allaient sur le terrain. Non, ce qui se passe, c'est que il est conscient que là, il, quand il parle de Malinowski, il identifie cette nouvelle manière d'être en immersion finalement et de rester parfois des années. Ce qu'il ne fera pas. Et on le lui a beaucoup reproché,
enfin,
d'ailleurs.
Il reste quand même plusieurs mois.
Oui, mais alors c'est tout à fait différent. Il reste pas tout. Si vous lisez vraiment Triste Tropique, on le voit très bien. C'est pas du tout qu'il reste plusieurs mois au même endroit. C'est une pour la deuxième expédition dans le Mato Grosso. C'est une expédition itinérante avec des tas de gens. Ils sont quatre ou cinq. Il y a des bœufs. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd. Et ils vont faire des centaines de kilomètres et à chaque fois, ils restent 15 jours, 3 semaines. C'est plutôt ça. Et finalement, le modèle est plutôt celui de l'expédition qui a eu lieu peu avant Dakar-Djibouti. C'est un petit peu ça plutôt que Malinowski.
Tout en enseignant aux étudiants brésiliens, Dina et Claude lisent les sociologues et les ethnologues. Et au lieu de rentrer en France durant la coupure scolaire, il prévoit de partir en mission. La destination choisie est le Pantanal, dans la forêt amazonienne. Dina obtient que le département de la culture de São Paulo, où elle est très investie, soutienne leur mission. Une petite équipe est alors constituée, du matériel est acheté, ils sont bientôt prêts à partir. Emmanuel Loyer, comment est-ce qu'il prépare cette première expédition ?
Donc là, c'est une expédition qui dure 2 mois chez les Kaduveo et les Bororo. Et bah, ils préparent comme on prépare une expédition, c'est-à-dire il y a tout un côté matériel, hein, tout un côté et puis tout un côté aussi intellectuel, c'est-à-dire que les bons pères missionnaires dont il a dit du mal, là en fait, il les fréquente aussi au sens où il va en bibliothèque voir parce que justement les Kaduveo, les Bororo, ces deux populations avaient déjà été en partie visités hein, par des missionnaires, par aussi d'autres ethnologues, enfin plutôt des missionnaires d'ailleurs. Donc il y a déjà une petite littérature pour cette première expédition. C'est non pas une revisite, mais enfin c'est quand même, il va pas tout à fait en terrain incognita. Par contre, pour la deuxième expédition qui durera en effet pendant 8 à 9 mois, dans le Mato Grosso, chez les Nambiquara, là c'est tout à fait différent.
De cette première mission, les Lévi-Strauss espèrent un choc émotionnel, intellectuel et esthétique. Ils sont bien sûr des scientifiques, mais ils sont aussi des êtres humains, jeunes, sans doute pas tout à fait débarrassés d'un peu de romantisme et de certaines illusions. Des humains qui, comme les autres, et même sans doute davantage que les autres, ont rêvé d'un ailleurs total. Ils veulent découvrir une altérité radicale et pourquoi pas meilleure. Il rêve de rencontrer un peuple intouché par le progrès, le plus possible éloigné de l'être humain occidental. Peut-être que, confusément, il cherche des raisons d'espérer dans un monde qui ne leur convient pas. Et cet espoir va se matérialiser avec la rencontre des Kaduveo et des Bororo, mais pas de la façon dont il l'avait anticipé. C'est ce que nous allons voir à présent.